Bonjour. Donc, je suis pas habitué de tenir un truc, donc ça se peut que l'occasion, je fasse ça, parce qu'habituellement, je suis accroché. Donc, je vous remercie de être patient avec moi là-dessus. Avant de commencer quoi que ce soit, c'est clair que je veux vraiment remercier. On a beau dire super, il vient du Québec et blablabla, mais je suis certainement un million de fois plus reconnaissant d'avoir été invité, surtout qu'en partant, j'ai cette tendance-là à me considérer comme étant assez peu important, en fait, parce que la plupart des gens que moi j'estime sont les gens qui m'invitent ou qui m'estiment eux-mêmes. Donc, en partant, je retourne au minimum le compliment au centuple. Deuxième chose que je veux dire, je l'ai dit hier soir à la table ronde, je parle français, mais un autre français. Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, levez la main ou criez ou changer l'expression de visage, quelque chose que je puisse le voir, j'essaierai de rattraper au besoin. Et finalement, je suis aussi content de passer en dernier parce que j'étais pas tellement sûr de la manière à aborder ce mandat-là, à savoir quelle est la différence entre du web durable et du web jetable, parce que la question se résume en une phrase qui est de dire le web jetable, c'est le web qu'on a tous fait, le web durable, c'est le web qu'on devrait tous faire. Puis on a passé 2 journées à en parler. Donc, passer après tout le monde, ça me donne l'avantage de pouvoir vous dire, ben, comment faire pour passer d'un à l'autre, respectons les standards, appliquons des bonnes pratiques, élargissons notre vision de ce qu'est la qualité. Puis maintenant que je l'ai dit, je peux passer à autre chose. Donc, ce qu'on va parler, plutôt que de parler de. En fait, on va inclure des questions comme comment vendre un site web, sachant tenir ses promesses à la sortie d'un nouveau navigateur, comme par exemple Internet Explorer 7. Mais on va l'aborder dans une perspective où on va remettre en question l'aspect de responsabilisation qu'on a tous vis-à-vis le métier qu'on exerce. On était très longtemps à ne pas se poser de questions. On a fini par se rendre compte que les décisions qu'on prenait avaient réellement un impact à un niveau ou à un autre, souvent à un endroit où on l'attendait pas du tout. Puis c'est ce qu'on va voir là-dessus. Avant de commencer, il semblerait que je suis obligé de me présenter. Donc, cybercodeur.net, c'est une aventure qui a commencé pour moi la fin 2001, alors que j'étais salarié dans une entreprise canadienne qui s'appelait CogniCase, qui a été depuis achetée par une entreprise canadienne ou internationale peut-être, qui s'appelle CGI. Je ne sais pas s'il y a un bureau de CGI ici. Effectivement, c'est pour ça que j'y suis plus. Puis, c'est devenu un weblog en 2002. L'histoire est presque intéressante. C'est devenu un weblog en 2002 parce que j'avais besoin de classer mes bookmarks en février 2002. Puis, je n'avais pas vraiment de méthode intéressante ou intelligente, sauf de me faire une note sur les sites que j'avais rencontrés. Puis, si ça vous intéresse d'aller voir, les premières entrées sur cybercodeur.net parlent entre autres de bluerobots.com, des choses comme ça, qui avaient créé des templates CSS sans tableau et tout le reste. Ça a débouché sur une découverte extraordinaire qui était justement les carnets web, les weblogs. Bon, comme tout le monde, évidemment, je suis obligé de dire que j'ai rencontré Tristan sur mon parcours, parce que c'est rendu un standard en soi. Mais effectivement, quelque part, je dirais quelque part au mois d'avril, donc à peu près 2 ou 3 mois après, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout le seul à m'intéresser à la question, qu'au contraire, il y avait plein de gens, autant en français, en anglais et dans d'autres langues, qui s'intéressaient aussi à ça. Donc, j'ai compris assez rapidement qu'il y avait une espèce de. Il y avait un mouvement international au niveau d'une certaine remise en question sur la manière de faire les choses, puis de chercher une optimisation des processus de développement web. J'ai éventuellement fondé un truc qui s'appelle Web Conforme, qui est mon entreprise à moi, qui travaille avec des partenaires justement dans du développement web, supposément de qualité, malgré le fait que je suis québécois ou canadien. Et j'ai aussi participé, en fait, fondé un regroupement qui s'appelle W3 Québec, qui se voulait, du moins à l'époque, être une première instance pour éventuellement avoir un bureau du W3C au Canada. Et rapidement, on a réorienté le tir pour plusieurs raisons, mais pour en faire finalement quelque chose, un organisme à but non lucratif qui fait la promotion des standards, des normes, des bonnes pratiques dans l'ensemble du développement, en ayant la prétention de croire qu'on peut couvrir ces domaines-là. Puis finalement, inspiré beaucoup par AccessiWeb ici, on a fini par se regrouper entre personnes qui s'intéressaient à l'accessibilité pour créer accessibilitéweb.com, parce qu'on a eu la chance de réserver le nom de domaine avant vous. Puis on a accessibilitéweb.com.org, à peu près n'importe quoi. Puis l'idée, justement, est de construire un compétiteur, je dirais, quelque part, à AccessiWeb, en faisant, nous aussi, de la certification, de la formation et tout le reste, donc l'évaluation de site et tout et tout. J'ai eu la chance aussi d'être invité à partager des projets comme Open Web au départ, quoique je ne me considère pas comme un vrai collaborateur, même si mon nom est encore là, du moins aux dernières nouvelles, en ayant écrit quelques trucs avec Tristan et Laurent Joanneau, entre autres. Puis, depuis, je m'intéresse surtout beaucoup à la question de la démocratie sur l'Internet, donc le fait de s'assurer que l'Internet soit utilisable par plein de gens, ce qui recoupe, en fait, la question de l'accessibilité, mais aussi que l'accès au Web ou à Internet soit massivement diffusé à travers l'ensemble des populations qui pourraient ne pas y avoir accès pour une raison ou une autre. Donc, on dépasse l'handicap et on va chercher d'autres considérations. Ceci étant dit, passons au vif du sujet. J'aimerais commencer par une question qui est celle-ci. En moyenne, d'après vous, un site web qui a une dizaine, parce qu'on s'entend pour dire 10, 12, 15 ans pour le web, personne n'a une réponse. La mienne serait de dire que Mosaic est arrivé en 93, donc le web commence en 93, d'autres diraient autre chose. Si on prend les 10 dernières années des sites web qui existent depuis ce temps-là, d'après vous, en moyenne, combien de refontes de sites web ont été faites? 3, 4, 5... Une refonte aux 2-3 ans en moyenne, du moins chez nous, c'est ça. Puis, ce qu'on remarque, du moins ce que moi je remarque, c'est justement cette notion-là de web jetable. L'industrie du web, j'aurais la prétention de dire en général, toutes frontières confondues, a toujours fonctionné sur un modèle où on essayait de développer, consciemment ou inconsciemment, de développer des solutions ou des sites web qu'on pourrait éventuellement reprendre, volontairement ou non, pour garder un client, volontairement ou non, très longtemps. Ce qui a créé, évidemment, des structures de, on disait business unit hier, des entreprises qui ont réussi, qui ont fait de très bonnes affaires, et d'autres qui n'ont pas réussi, évidemment, mais, pardon, donc, d'avoir des entreprises qui ont développé une culture basée sur le fait de garder une certaine captivité de leur public ou de leurs clients pour faire en sorte de justement avoir à long terme de plus en plus de travail. Ces sites web-là ont été développés de manière généralement avec une vision assez limitée ou court-termiste. Court-termiste, est-ce que ça se dit ici? Non? À court terme. Une vision à court terme, ce qui fait que souvent, l'entreprise évoluait dans une direction, le site web restait où il était ou au pire, se dégrader un peu, puis après 2 ou 3 ans, justement, les gens étaient plus en mesure de se reconnaître à travers leur site web et avaient besoin d'une refonte. C'était un plan de marketing excellent. Puis, justement, le résultat de ça, enfin, un des résultats de ça, étant que, justement, autour de 2001 ici, je crois, mais 2000 chez nous, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle l'éclatement de la bulle technologique et les gens se désinvestissent massivement du web parce que c'est quelque chose, c'est un trou sans fond dans lequel on ne peut jamais aller chercher un vrai bénéfice. Vous avez vu la question? Donc, est-ce qu'on parle, qu'est-ce qui cause ces problèmes-là? Est-ce que c'est l'immaturité du médium, le manque de perspective des développeurs ou des acteurs du web ou simplement une grossière incompétence? Est-ce que c'est parce qu'on est vraiment de mauvais développeurs web? Est-ce qu'on est inconscient de ce qu'on fait? Ou c'est simplement une question de contexte. Peut-être que le web est trop jeune, peut-être que le web n'a pas eu le temps de maturer, je ne sais pas si maturer est bon ici aussi, dans ses processus, n'a pas eu le temps d'avoir suffisamment de recul sur lui-même pour intégrer des standards. Il y a plein de raisons qui sont bonnes, il y a peut-être un peu de toutes ces raisons-là en même temps aussi. Ce qui est sûr, c'est que si on compare le web aux autres grands médias, les médias grand public, donc la télé, la radio, le cinéma, ainsi de suite, c'est le seul qui n'applique pas les standards qui lui sont présentés ou qui les applique incorrectement ou qui n'a pas conscience de les appliquer. Il n'y a personne qui peut espérer sortir un film au cinéma puis ne pas se conformer à un certain type de format, qui peut faire une émission de télé, de radio, quoi que ce soit du genre. Dans le web, on peut. Il n'y a aucun problème, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est certainement une cause de blâme. Ensuite, on a depuis toujours aussi développé, du moins dans les grandes entreprises, comme CGI ou d'autres que vous avez ici équivalentes, cette culture de la facilité-là. C'est-à-dire qu'on a développé des processus, on a développé des solutions, elles fonctionnent, elles sont rentables, on les réutilise tant et aussi longtemps qu'on pourra le faire. Ce qui fait qu'à un certain moment donné, il y a un détachement entre la réalité, les technologies qui évoluent, et les applications que nous, on livre en tant que développeurs. Puis, en même temps, il y a une question de statu quo aussi. On veut rentabiliser un outil à mort, donc on va l'utiliser très, très longtemps, quitte à ce qu'à un certain moment donné, on commence à se porter préjudice à nous-mêmes au niveau de la qualité de ce qu'on offre. Donc, je vous disais que les maturités du médium, justement, c'est un peu ça. Donc, on l'est toujours un peu, mais dans une perspective où on cherche on veut évidemment tous offrir le meilleur service possible. On a tous à cœur d'offrir de la qualité, mais la définition de cette qualité-là n'est pas forcément actualisée en fonction de l'évolution des technologies depuis, disons, 98-99. Évidemment, il ne faut pas s'en surprendre dans une culture où la compétence d'un développeur web, pour ne parler que des développeurs, est évaluée surtout sur sa capacité à être ingénieux, à trouver des hacks, que sur sa maîtrise des standards qu'il utilise quotidiennement pour faire son travail. Donc, quelqu'un qui maîtrise HTML à fond a beaucoup moins de mérite que quelqu'un qui sait hacker pour tel ou tel bug de tel ou tel navigateur que je n'ai pas besoin de nommer. Donc, ensuite, ça, donc, pour reprendre sur la question de la captivité, ce qu'on a en fait, on a quatre forces en opposition là-dedans. On a d'une part des gestionnaires qui sont motivés par le désir de satisfaire des conseils d'administration. Donc, les patrons, eux, ce qu'ils ont besoin de faire, c'est s'assurer qu'à tous les 3 mois, l'exercice financier qu'ils présentent aux actionnaires est de toujours de mieux en mieux. Donc, les décisions se font à court terme parce qu'on a besoin de valider vis-à-vis de ces gens-là pour protéger son propre poste. Ensuite, de l'autre côté, on a les investisseurs qui mettent de l'argent massivement dans le web et qui ont de moins en moins confiance parce qu'à toutes les fois qu'ils font quelque chose, c'est à reprendre 2 ou 3 ans plus tard. Après, il y a évidemment nous, les développeurs, qui devons composer avec plusieurs navigateurs qui ne se comprennent pas, plusieurs méthodes de travail qui ne sont pas naturellement compatibles. Puis au final, peut-être le plus important, des gens qui, en bout de ligne, ne peuvent pas vraiment utiliser le produit pour une raison ou une autre. J'ai eu la chance de commencer à utiliser le Mac à macOS 10, ce qui fait que je n'ai pas vraiment vécu ces problèmes-là. Par contre, quand j'étais un développeur qui ne comprenait rien à tout ça, mon réflexe, quand on me disait qu'il faut que ça supporte Internet Explorer jusqu'à 5, en fait, ou n'importe quoi sur Mac, c'était l'horreur. Puis, parlez-moi même pas de Linux. Netscape, c'était déjà un problème, puis Internet Explorer, c'était la norme. C'est ça sur quoi on se basait. Donc, dans un contexte comme celui-là, c'est pas surprenant qu'aussitôt qu'on sort des sentiers battus, là, je parle de navigateur ou de plateforme, mais évidemment, je parle même pas d'handicap pour l'instant, ces gens-là, automatiquement, sont laissés pour compte complètement, puis on prend une position, volontairement ou non, inconsciemment ou non, de dire le web qu'on développe, on le développe pour une certaine élite. Où ça nous mène tout ça? Puis évidemment, où nous ramener, parce que justement, on est déjà passé par là. La vision, je me permettrai aussi, moi aussi, quelques jugements, pas directement vers les gens de marketing, parce que je les aime bien personnellement, mais vers les agences, vers la culture des divas, en fait. Je sais pas, j'espère, s'il y a des divas dans la salle, je vous aime, vous, mais bon, les autres, j'ai plus de difficultés. Les agences au Québec, du moins, sont contrôlées par les gestionnaires. La culture des divas. Les divas, les Barbra Streisand et autres personnages importants. Là. OK. Merci. Donc, une culture dans laquelle on a des gestionnaires, évidemment, qui contrôlent l'entreprise, mais où toute la création, tout le processus de développement passe par une personne qui a des goûts artistiques qui sont reconnus et qui impose sa façon de voir les choses dans un médium qu'il ne maîtrise pas forcément complètement, du moins au niveau conceptuel. Ce qui fait qu'on a des designers qui produisent des maquettes graphiques extraordinaires, puis qui ne sont, ou du moins qui n'étaient pas à l'époque en mesure de comprendre que le web n'était pas du print, qui imposait cette réalité-là à des développeurs, qui devait faire des tables avec des GIFs transparents, avec un paquet de trucs. Est-ce que les gens qui se rappellent de l'élément HTML Spacer? OK, voilà. Donc, on a ça d'une part, qui évidemment crée en partant une certaine dynamique dans laquelle le développement web s'oriente d'une certaine façon, qui n'est définitivement pas une façon orientée sur ce que les standards nous proposent. En parallèle à ça, on a justement des entreprises qui, elles, croient au web, qui ont à toutes les deux ou trois années une nouvelle raison de croire que le web pourrait être rentable pour eux. Autour de 2000, c'était les CRM, justement, les gestionnaires de relations clients, ou quelque chose comme ça en français. Puis maintenant, c'est le web 2.0. Donc, on leur amène quelque chose de nouveau, un beau gros bonbon, en leur disant, là-dedans, puis il y en a pour tout le monde, on peut l'orienter d'une façon ou d'une autre, surtout quand on ne s'entend pas sur ce que c'est en partant. Puis dire que, parce que juste au cas, si des gens ne savent pas ce qu'est le web 2.0, c'est correct. On a le droit, personne ne le sait vraiment, là, personne ne s'entend là-dessus. Donc, des entreprises qui essaient de suivre le rythme, qui s'appauvrissent de plus en plus et sont de plus en plus déçus par rapport à ça. Puis, par conséquent, l'effritement de la confiance. Donc, un retour possible à un autre crash de ce niveau-là. Notre rôle à nous, notre responsabilité, en termes d'évangéliste ou quoi que ce soit du genre, c'est d'au moins prendre conscience qu'on est passé par là, puis que la conséquence logique de cette démarche-là nous ramène toujours vers ces problèmes-là. Ici, il y a comme une petite cache que vous ne pognez pas parce que vous ne pognez pas, que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous n'êtes pas du Québec. Mais enfin, le slogan de W3 Québec étant pour voir le web autrement. Bref, ça marche chez nous. Définir un web. Donc, le web durable, si on veut essayer de donner une définition de ce que ça pourrait être, complètement arbitraire, c'est fondé sur 5 objectifs de qualité qui pourraient être la pérennité, l'interopérabilité, la portabilité, l'accessibilité et l'évolutivité, si on veut, d'un site web. C'est important de dire que ces standards-là ne sont pas la panacée. Au Québec, on dirait que ce n'est pas la fin du monde. On a longtemps, surtout au niveau des standards, puis moi le premier, présenter ça comme étant le but ultime à atteindre, le holy grail du développement web, quand dans les faits, c'est un élément parmi tant d'autres. Puis ça, je dois remercier M. Slohim pour me l'avoir fait réaliser assez tôt en fait, pour pas que je dise trop de bêtises. Puis, justement, que c'était pas parce qu'on faisait un site web conforme aux standards, qu'on faisait un site web sans erreur HTML, qu'on faisait un bon site web pour autant. Puis, dans la mesure où on comprend ça, qu'on comprend que cet élément-là s'inscrit à travers une chaîne qui pourrait inclure de l'ergonomie, de l'utilisabilité, un bon niveau de rédaction web, des niveaux de configuration, et ainsi de suite, on arrive à transcender, si on veut, cette façon de penser-là. Puis, on comprend que c'est beaucoup plus large, finalement. Puis, en faisant ça, évidemment, on arrive à casser ce cycle-là où on produit un site web qui est mort avant même d'avoir une chance de vivre. Donc, on sait qu'on... Une anecdote là-dessus en passant. Moi, en 2003, je travaillais pour une entreprise... En fait, je travaillais justement pour CGI à l'époque. Puis, un de mes clients était Transcontinental, qui est une grande entreprise d'impression au Canada. Puis, on voulait reproduire un environnement complet informatisé du début d'une idée de quelqu'un de marketing jusqu'à la livraison à la porte d'un client. Donc, vraiment la chaîne complète. Puis, à cette époque-là, les requis en partant étaient d'être d'être optimisé pour Internet Explorer 6, d'être optimisé pour un certain nombre de choses comme ça, qui déjà là étaient en train de perdre beaucoup de rythme. Puis on avait un projet qui était étendu sur 3 ans. Donc, un projet qui sera livré, qui a dû être livré dernièrement, est basé sur toutes les mauvaises pratiques qu'on pourrait présenter aujourd'hui. Donc, il y a nécessité de voir plus loin que ça, puis de casser cette espèce de réflexe-là qu'on a. Puis, ça peut se faire justement par une approche, tantôt je parlais d'approche par la facilité, certainement une approche par l'audace, dans laquelle on essaie de revoir nos façons de faire, qu'on ose passer à des nouvelles solutions, puis réinventer ce qu'on sait en fonction de l'évolution technologique ou des nouvelles possibilités qui s'offrent à nous. Donc, l'émergence d'une vision de conception à long terme ou la victoire du bon sens. Justement, c'est en fait la première phrase dit tout en elle-même. La seule manière, en tout cas personnellement, la seule manière qui me semble possible d'arriver à produire un site web que je pourrais réutiliser ou je pourrais espérer réutiliser à la prochaine refonte, dans 2 ou 3 ans, pour l'améliorer, pour le pousser plus loin, pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ou quelque chose comme ça, c'est de passer par un tronc commun technologique. Donc, de m'assurer que ce que je vais produire aujourd'hui va toujours fonctionner demain et que je peux déjà commencer à penser d'une manière que je peux prévoir en fait déjà technologiquement des avenues qui seront toujours possibles parce que l'évolution des navigateurs étant ce qu'elle est, ça sera différent, mais j'aurai toujours mon assurance quand même. Ce qui nous permet de transformer justement un gouffre sans fond d'investissement en technologie en un sommet vers l'excellence. L'exemple de François tout à l'heure est assez parlant là-dessus. C'est plutôt rare qu'on peut voir une étude de cas. En fait, personnellement, je me considère chanceux d'avoir vu deux, une hier puis une aujourd'hui à ce niveau-là, qui vont dans le même sens. Mais c'est pas des trucs qu'on trouve facilement sur le web. C'est pas de l'information qui est partagée très, très facilement. Puis, ça aussi dans un contexte où il y a plusieurs obstacles. D'une part, il y a les contraintes que le projet amène, que vous connaissez très bien, c'est-à-dire ce qui vous est imposé en termes de budget, en termes de production et tout le reste. Il y a d'autre part l'immobilisme de développeurs qui sont réticents à passer à une autre façon de faire parce qu'ils sont très heureux et très confortables dans leur façon de faire eux-mêmes. Puis après ça, il y a la percolation d'un standard. J'explique peut-être juste au cas ce que je veux dire, parce que ce n'est pas forcément clair. Donc, en fait, Daniel présentait tout à l'heure l'exemple de CSS, qui est un super bon exemple là-dessus. CSS a 10 ans, puis on commence à peine à l'utiliser de manière répandue. C'est ce que j'entends par percolation. Avant que ça devienne quelque chose utilisable par un développeur web, c'est passé par plusieurs couches différentes d'acceptation jusqu'à ce que ça devienne quelque chose d'assez robuste pour qu'on l'utilise. Donc, l'idée étant celle-là. Donc, passer du web jetable au web durable, comment faire pour y arriver? Que doit-on changer? De quel outil dispose-t-on? C'est clair que les navigateurs sont de plus en plus conformes à ces standards-là, font de plus en plus attention à respecter les éléments qu'on pourrait considérer comme étant les bons éléments HTML à prendre en compte. Puis, en fait, par la force des choses, continuer à utiliser les éléments dits propriétaires devient de plus en plus dangereux dans un contexte comme celui-là. Des exemples que vous avez sûrement eus à un moment ou à un autre, ne serait-ce qu'à l'arrivée d'Internet Explorer 6, c'était la manière de centrer, par exemple, un tableau HTML de mise en page pour qu'il soit centré vertical et horizontal. Donc, du jour au lendemain, moi, je sais que dans les projets que je faisais, mon site centré est devenu aligné en haut à gauche. Parce que justement, la manière que je fonctionnais n'était plus une manière supportée par Internet Explorer 6. Donc, moins on a recours à ça, moins on a recours au hack, plus on s'en tient à des choses qui, au départ, sont éprouvées, moins on a de surprises à long terme. Donc, moins on a de clients qui nous appellent avec des problèmes, mieux on dort. Puis, bien dormir est important. Après ça, surtout quand on est en décalage un peu. Les standards en général, je dis bien enfin parce que on a deux beaux exemples qui disent le contraire, mais les standards sont généralement conçus de façon à assurer cette rétrocompatibilité-là, donc compatibilité descendante, je crois. Je dis enfin parce qu'il y a d'une part XHTML2, il y a d'autre part WCAG2 qui pose un certain nombre de questions là-dessus. Mais en général, on peut se fier sur cette évolution-là pour justement avoir confiance dans les pratiques qu'on met en place pour que ce soit toujours quelque chose qui va pouvoir évoluer. Puis effectivement, se tenir à la pérennité du code va simplifier les processus de maintenance d'une part, vous le savez. C'est beaucoup plus facile, par exemple, pour un nouveau collègue de s'approprier un projet sur lequel vous travaillez quand il a été construit de cette façon-là que de lui faire passer 2-3 jours ou 2 semaines pour qu'il comprenne comment votre truc est structuré au départ. La responsabilisation professionnelle, ben, c'est ce que j'ai couvert un peu pour l'instant. Ce qui est très important, à mon sens, justement, c'est simplement de prendre conscience de ça, prendre conscience de l'impact de ce qu'on fait. Le moindre fun tag innocent qu'on met en place a un impact chez un utilisateur ou un autre, et ça va comme ça pour toutes les décisions qu'on peut prendre dans une journée de codage. Puis, c'est important, justement, de prendre en considération ou de comprendre, en fait, où on va avec ça, parce que... Il il y a justement le Web 2.0 qui arrive. Les sites web qu'on a fait ou qu'on a refait autour de 2001, 2002, 2003 sont dus pour être refaits à nouveau. Chez nous, du moins, c'est peut-être pas comme ça ici, mais chez nous, du moins, depuis fin 2004, début 2005, on sent qu'il y a une reprise très forte. Puis, cette reprise-là, justement, n'est pas du tout due au fait que les gens nous font plus confiance qu'en 2001. Cette reprise-là est due parce qu'ils n'ont pas le choix de réinvestir, ce qui est un peu déprimant. Donc, quand ces gens-là viennent nous voir, souvent, il y a cette espèce de méfiance-là ou un certain recul vis-à-vis les discussions ou leur ouverture, parce qu'on sent très bien qu'ils sont déjà brûlés une, deux, trois fois avant, puis qu'ils ont dépensé des dizaines, des centaines de milliers de dollars pour rien, parce qu'on est déjà en train de leur dire à la première rencontre, « Ouais, il faut tout mettre à table, il faut repartir à nouveau. » Sauf que cette fois-ci, on va le faire avec des standards. Donc, ça devrait être la dernière fois qu'on recommence. On devrait être capable de construire là-dessus. Si ça avait été la deuxième reprise, ça aurait peut-être été pas si mal. Quand c'est la troisième ou la quatrième, c'est plus dur à faire passer. Donc, cette confiance-là n'est pas du tout revenue. Ils sont juste obligés de faire affaire avec nous à nouveau. Puis, si on est justement... Si on est conscient de ça, puis le plus rapidement on passe à cet état-là, ou du moins on se donne les outils pour éventuellement y arriver, le plus rapidement on essaie de mettre un baume sur cette blessure-là, puis s'assurer que les gens vont reprendre confiance, puis vont redévelopper naturellement sur le web avec nous autres. Puis, en tant que développeur, en fait, ça a déjà été un luxe, en fait, je dirais, peut-être vers justement 2002-2003, de considérer les standards comme étant une chose le fun, quelque chose comme ça. Ça l'est de moins en moins, c'est de plus en plus un impératif. Ne serait-ce que parce que la quantité d'intégrateurs web, par exemple, sur le marché où la demande est limitée. On n'a pas besoin de 3 millions d'intégrateurs web à Paris. Donc, du lot, on va prendre les meilleurs. Si on commence à comprendre que les meilleurs intégrateurs sont ceux qui maîtrisent CSS et HTML ou XHTML, on va certainement pas engager quelqu'un qui se vante de pouvoir construire une table complexe avec 55 row spans à l'intérieur de 343 TR. Donc, c'est définitivement pas un élément qui va nous permettre de se démarquer. Par contre, moi, quand j'ai été engagé pour la première fois autour de 99 ou 2000, c'est ce qui a fait la différence. J'étais capable d'écrire une table complexe sur papier. J'étais capable d'écrire un frameset complexe sur papier. Ça a fait de la différence entre moi et quelqu'un d'autre. Mais la perception de ma compétence était complètement biaisée par la culture de l'époque. Cette culture-là change, c'est important de changer avec. Parce que sinon, ben c'est pas compliqué, vous allez travailler dans le bois ou ailleurs plus tard, vous allez faire autre chose, vous serez plus intéressant. Donc, notre vision de la notion de la qualité sur le web, elle a besoin de changer ou d'évoluer dans ce sens-là, je crois toujours. Des projets comme Upcast, on a parlé hier, sont des exemples flagrants de cette nécessité-là de passer à un autre niveau. On n'est plus en train de dire « Ouais, le web, c'est super parce que c'est visuellement très beau, je le regarde dans Internet Explorer 6, je le regarde dans Netscape 4, c'est pas mal pareil, tout le monde a une belle expérience. » C'est beaucoup plus complexe que ça maintenant, vous le savez. C'est important que ça se reflète dans la manière dont on l'aborde aussi. Après ça, une autre chose, anecdote encore, on a au Québec un prix, un concours de sites web qui définit quels sont les beaux sites web au Québec, qui s'appelle les Boomerangs. Puis, j'ai eu la chance d'être jury sur les Boomerangs l'année dernière parce que je voulais justement savoir, avant de critiquer, quelles étaient les grilles d'évaluation des sites web. Puis, j'ai reçu j'ai été attitré à une catégorie qui s'appelait ergonomie et utilisabilité, moi qui n'ai à peu près pas ergonome en partant. Puis, j'ai reçu une grille d'évaluation qui tenait sur 3 lignes. S'il y a des ergonomes dans la salle, vous avez le droit d'être un peu frustré. Donc, puis je m'adonne à être quelqu'un d'interface, donc je connais quand même un peu ça. Je n'ai pas la prétention d'être un expert, mais je me débrouille. J'avais avec moi des gens qui étaient des programmeurs, j'avais des gens qui étaient des gestionnaires de projets, j'avais des gens de tous les horizons du web qui ont évalué avec moi une grille d'utilisabilité basée sur aucun critère. Puis qui ont déterminé, basé là-dessus, que tel ou tel site était les meilleurs. Puis, il y avait évidemment d'autres critères de mesure de qualité, tous basés sur l'esthétisme ou sur l'apparence visuelle du site, puis absolument rien sur la manière dont c'était construit, codé, configuré ou quoi que ce soit du genre. Il faut faire ça, c'est clair. Vous le savez aussi bien que moi. La différence se joue souvent là. C'est sûr. En fait, bon, on parlait de services et de contenu. On a parlé hier, on a reparlé tout à l'heure. J'ai beau avoir un site web, j'ai beau avoir le plus beau site web du monde, qui plaît à tout le monde miraculeusement, si j'ai rien à dire dessus, c'est clair que on va venir une fois et on ne reviendra plus. On va venir pour le présenter au prochain qui viendra une seule fois et ne reviendra plus aussi. Par contre, si mon site est construit de la bonne façon et structuré de la bonne manière, je vais avoir plus de succès qu'un autre. Il faut pas avoir peur. Le capot, oui? Le hood d'un char? Donc, soulever le capot, voir ce qui se passe en dessous. C'est beau d'avoir un beau design. Si ça tient sur rien, ça ne serait certainement pas portable dans un autre outil. Puis, dans la mesure où on s'en va vers d'autres outils, ben on se limite. Si je suis pour investir 200 000 dans mon entreprise pour un projet web en 2006, j'aimerais bien qu'il soit déjà minimalement portable sur tout ce qui s'en vient comme interface si je suis en mesure de le prévoir d'avance. Je ne vais pas me limiter à demander Internet Explorer 6 ou peut-être 7 ou même Firefox, ce qui est déjà une évolution en soi. Donc, des outils comme ça, ils commencent à en avoir de plus en plus. Il y a évidemment, Carl mentionnait hier le Log Validator. On a des validateurs, on a des outils, des référentiels comme Opcast. On a plusieurs choses qui existent. Puis c'est pas là pour rien. Ça sert définitivement à quelque chose. Puis on a besoin de le planifier comme ça si on veut justement continuer à être bon. Si on veut continuer à avoir raison quand on est fier de ce qu'on fait. On livre un projet, on dit « Ah, c'est super, on a travaillé fort, ouais, bravo ». Si on est capable en plus d'avoir une fierté en se disant « ça va aller loin », puis possiblement que la prochaine fois que mon client va revenir dans 2 ou 3 ans, ce ne sera pas de revenir à contre-cœur parce qu'il a besoin de revenir, parce qu'il est obligé, mais plutôt parce qu'il a le goût de revenir, parce qu'il a tellement une expérience extraordinaire qu'il est prêt à en faire un autre bout avec vous autres. Puis ça, c'est un méchant changement, c'est un gros changement dans la façon de faire les choses ou de voir les choses. Donc, l'approche a besoin d'être changée comme ça. Il n'y a plus de raison aujourd'hui. Il y avait des raisons en 2000, 2001, 2002 de ne pas vouloir faire les standards. C'était plus ou moins bien supporté. Il y avait plus ou moins de ressources qui étaient disponibles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a plein de choses. Ce que François disait tout à l'heure aussi par rapport à ça, c'est vrai. On n'a même pas besoin de faire une formation dans un centre. On peut tout faire sur le web. Il suffit de vouloir lire un peu. Après ça, justement, consulter ces ressources-là, réseauter, suivre des activités de groupe comme ce qu'il y a aujourd'hui, des choses comme ça, s'impliquer. Je suis assez bien placé pour savoir que c'est facile de s'impliquer dans un truc comme celui-là si on a suffisamment de motivation ou de passion vis-à-vis de ça. Je parlais ce midi avec des gens, puis je leur disais justement que j'étais étonné en fait d'arriver ici puis de constater que les Français ne se connaissaient pas entre eux. Donc, Raphaël, Élise, Tristan, bon, des gens se connaissent, mais en majorité, les gens ne se sont pas forcément rencontrés souvent. Puis moi, j'ai toujours eu l'impression, de mon Québec lointain, que j'étais très, très isolé des autres. Puis dans les faits, les gens ici ne se voient pas forcément plus souvent non plus. Mais ils se sont impliqués, ils ont fait quelques efforts, ils ont essayé d'avoir des idées nouvelles, puis spontanément, les gens s'incluent les uns les autres, puis on a fini par créer une communauté autour de ça, qui curieusement, justement, et drôlement bien et drôlement bien ficelé ensemble. Les liens sont forts, malgré le fait que pour certains, on découvrait la physionomie pour la première fois aujourd'hui. Donc, on n'avait aucune idée de ce qu'ils avaient à l'air. Il faut aussi, de l'autre côté, garder l'esprit clair par rapport à tout ça. On ne se rend pas service quand on dit que le Web 2.0, c'est la prochaine grosse affaire. On se rend service quand on leur dit pourquoi c'est la prochaine grosse affaire. Donc, il faut avoir des éléments concrets à présenter. Il faut avoir des éléments concrets. Faut pas raconter n'importe quoi. Faut pas pelleter des nuages, comme on dit chez nous. Puis je fais référence à un article que... Quel est le titre déjà? Éric Daspe a écrit sur le cybercodeur.net, qui était le web, c'est pas pour les stagiaires, un truc comme ça, là. Que certains ont peut-être eu, dans lequel il disait justement, on a aussi une responsabilité en tant que développeur web, qui est de faire en sorte qu'on peut dire non. Si un client nous demande quelque chose qui est complètement farfelu, on peut dire non. C'est notre responsabilité de dire non, sachant qu'on aura peut-être à le faire quand même, mais au moins de dire, regardez, voici pourquoi c'est pas bon. Voici pourquoi vous devriez pas faire ça. On estime que vous risquez d'avoir tel ou tel problème en cours de route. Puis s'ils sont complètement bloqués à cette idée-là, bien, tant pis pour eux. Mais au moins, on les aurait avertis. On aurait fait notre travail de les avertir, notre travail de consultant, notre travail de conseiller, et ainsi de suite. Donc, c'est important de garder ça en tête. Évidemment, pour le garder en tête, il faut se poser des questions avant. Donc, il faut arrêter de coder bêtement des trucs, puis commencer à réfléchir. Réfléchir sur la sémantique de notre HTML, réfléchir sur un paquet de choses, pour qu'il y ait justement un certain recul vis-à-vis l'approche qu'on a. Alors, repousser les limites du savoir, exploiter les technologies de manière réfléchie et responsable, c'est un peu ça. Puis, grosso modo, c'est plus à dire.
Une question du président.
Oui, c'est juste un tout petit retour d'expérience sur la collaboration et le fait de ne pas beaucoup se voir. Quand on a envie de faire les choses, on n'est pas obligé de beaucoup se voir. Sur un an, tous les trois, on a dû se voir 5 fois et avec Olivier, on a dû se voir 2 fois. Donc voilà, c'est juste pour dire ça. Et je voulais dire une deuxième chose. Une des choses dont je suis très fier, c'est que chez France Télécom, on a enfin un projet avec lequel je travaille depuis 2 ans qui a décidé de prendre une personne à temps complet sur HTML, CSS, JavaScript. Les mentalités évoluent. Youpi. Voilà. Merci.
Oh, juste une chose. C'est pas fait encore, mais en fait, je sais même pas si c'est lisible. C'est pas forcément lisible. Mais la présentation sera en ligne. Elle n'est pas déjà là, mais elle sera peut-être... OK. Parfait, c'est ça.
Question?
C'était super limpide. Mais peut-être que je parlais trop vite aussi, c'est très possible.
Bonjour, Jacques Pira, Pira.net, avec un Y. Alors, personnellement, je ne suis pas concerné parce que je considère que la veille technologique fait partie de mon travail, mais je rencontre beaucoup d'entreprises, de SS2I, de web agency, où les développeurs sont à 150% sur le tableau du travail affecté et ils n'ont jamais le temps de faire de la veille technologique. Comment est-ce qu'on peut les convaincre que c'est nécessaire à leur survie?
Moi, je travaillais avec des gens qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux. Je travaillais avec des intégrateurs qui entraient au bureau à 9h le matin, sortaient à 5h, parce que nous, on sort à 17h. Puis, qui n'avaient pas d'ordinateur du tout. Donc, le soir, la fin de semaine, ils faisaient autre chose, ils avaient une autre vie, puis ils venaient travailler à faire des sites web le jour. Donc, ces gens-là n'avaient justement pas d'intérêt, pas de motivation à faire ces choses-là. Il n'y a pas de solution miracle, je pense. La plupart de ces gens-là, aujourd'hui, font justement autre chose. Ils ont été complètement déclassés à un moment ou à un autre. Il y a une élimination naturelle, en fait, qui va se faire forcément par la force des choses, parce que le marché a besoin d'un nombre limité de personnes, puis il y a de plus en plus de personnes qui ont des compétences qui sont supérieures à celles que le marché a actuellement. Donc, il y a une épuration naturelle qui va se faire. Il faut vivre avec ça. Il faut espérer que certaines têtes à l'intérieur du troupeau auront la bonne idée de passer à un autre niveau, mais on ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. On peut juste le prévenir. Puis, en même temps, c'est sûr que quand on développe un projet beaucoup plus rapidement, parce qu'on perd moins de temps sur de l'imbrication de tableaux, où on est capable de faire des... on est beaucoup plus habile au niveau des modifications qu'on a apportées, le travail se démontre par lui-même. Les avantages se démontrent par eux-mêmes. Puis si les gens ne peuvent pas capter le signal, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, en fait. Moi, ça fait longtemps, ça fait 4 ans, 5 ans que j'en parle de ces choses-là. Puis il y a des gens qui n'ont jamais rien voulu savoir. Puis c'est ça, ils font autre chose aujourd'hui. Puis pour certaines personnes, c'est justement ça. Il y a des gens qui vont se dire aussi, ben moi, je fais du web jusqu'à l'année prochaine, c'est dans mon plan de carrière, puis après, je fais autre chose, parce que de toute façon, les intégrateurs, on n'aura plus besoin, il y a des CMS et blablabla. Puis c'est clairement établi pour eux que c'est pour une période limitée. Donc, il n'y a aucun intérêt à faire mieux. Donc, ça ne vaut pas la peine de se battre contre ces gens-là pour essayer de leur faire confiance, de leur faire comprendre, quand il y a plein d'autres gens qui sont disposés à écouter pour comprendre quelque chose puis avancer. Donc, il faut vivre avec, je pense.
J'ai peut-être une réponse à rajouter en plus. Là, je m'adresse plus aux techniciens, parce que Denis s'est passé un petit peu au-dessus. Les techniciens, si vous n'avez pas le temps de faire un minimum d'apprentissage et de veille au cours de votre travail, j'aurais peut-être un conseil quand même à donner, c'est d'aller chercher ailleurs. parce que sinon, dans 2 ans, dans 3 ans, non seulement vous en aurez marre, mais en plus, vous serez dépassé technologiquement, ça sera peut-être un peu tard pour vous reconvertir. Ça fait partie du métier, en tout cas si vous ne voulez pas faire que de l'exécution. Et c'est votre métier, si on ne vous permet pas de faire votre métier, il faut aller chercher ailleurs où on vous permet de le faire.
Alors, un peu dans le même point de vue, je ne pense pas en fait que ce soit les développeurs qui vont provoquer ce mouvement-là. Les bons développeurs, ils vont effectivement faire de la veille et ils vont trouver le bon employeur, le bon endroit pour mettre ça en application. Moi, du point de vue du client, le problème que je vois, notamment dans les agences, c'est le patron qui décide. Si le patron il a un business qui tourne à flux tendu, qui sont tout le temps charrettes, il ne voit pas l'intérêt de former les gens, eh ben, il fait tourner son business. Ce qui va se passer, c'est l'évolution darwiniste, c'est qu'à un moment ou un autre, c'est les clients qui vont être éduqués. Les clients, ils vont arrêter d'acheter dans les mauvaises agences. Ils vont acheter dans les bonnes. Et là, les développeurs qui ont fait leur boulot de veille, ils seront déjà dans les bonnes agences et les autres vont crever. Point.
Je vais donner un conseil aux étudiants, mais alors soyez très très prudents, parce que surtout en France, c'est toujours un problème. Les étudiants qui sont dans des formations informatiques, qui sont sensibilisés au standard web et qui voient que leur curriculum, le programme, ne fait rien dans le domaine des standards web, je vous recommande d'aller discuter avec votre professeur, d'aller discuter avec les gens qui sont en charge du programme pédagogique. Surtout pas de façon conflictuelle, parce que ça va vous poser des problèmes pour la suite de vos études. Mais essayez de sensibiliser les gens au sein des académies.
Oui, bonjour, Alex Simons, Groupe Reflect. Bon, moi, je représente une agence ici, on tape beaucoup dessus depuis tout à l'heure, mais très bien. Juste pour dire, là, on parle beaucoup de la carrière des développeurs, etc. Pour moi, les agences, c'est pareil. Hein, les agences qui ne se donnent pas les moyens d'investir dans la veille, la R&D, d'avancer, ben, mourront, point barre.
C'est pas forcément, en fait, je sens un besoin de justifier quelque chose. C'est pas forcément en fonction de choix technologique non plus. Parce que, on a beaucoup parlé de Flash. On a beaucoup écorché Flash depuis hier. Ça répond à un besoin. Ça répond à un besoin qu'il n'y a aucune autre technologie qui peut offrir. Puis, les boîtes qui font uniquement du Flash ont leur raison d'être encore. J'ai le culot de penser qu'une boîte qui fait beaucoup de flash a intégré des processus d'XML aussi. Donc, fait les choses assez proprement. Puis, c'est pas vrai qu'un flash bien fait n'est pas accessible, ou du moins pas en partie accessible. Donc, il y a moyen d'arriver à faire quelque chose de relativement bien, même si on détourne un peu une technologie de sa nature première. Mais c'est ça. Donc, il faut pas condamner tout. Tout n'est pas blanc et noir et blablabla. Là. Parce que ça répond à un besoin, il y a des gens qui achètent. Tant qu'il y aura des gens qui achèteront, ça va continuer à fonctionner. Mais progressivement, ça se peut que les gens commencent à se dire, finalement, j'ai peut-être pas besoin d'une interface complète en Flash. Je pourrais l'utiliser pour des éléments précis. Puis là, ça risque de passer à autre chose. Puis probablement que les entreprises qui font que ça vont aussi commencer à intégrer ou ouvrir, en fait, leur vision sur d'autres éléments.
Okay, Stephanie Truth, professional volunteer. I'd like to respond to the question about how do you improve circumstance at work in terms of keeping skills up to date. Now, I've in my past 5-6 years of work experience, there have been a few strategies that we've been employing, either me and somebody else, or just on my own. So one of the things you can do in the workplace is when you are a project manager and assigning time and resources, give your people an hour or two a week to make sure they keep up to date. If you assign the resources week by week, then people can make the time for it. And so if you have my job is a technical leader at my company, and this is what I do. So I make sure that my developers have time to keep up to date and that they talk to each other about what they find. There is nothing more powerful than sharing the knowledge that you find. So this also has been done at universities, for example, at Monash University, where I was working about 8 years ago. What we were doing, because most people who end up doing websites are not professionals. They have no training. They were not given resources. They land in the job because there were secretaries who were updating calendars. So this is what happens. And what are you going to do? They are not going to have the money to be trained. They are not webmasters to begin with. And so what we did at Monash University a few years ago was that we created lunchtime sessions open to anybody who is interested about how to do basic things, how to post a page, how does FTP work, how does a Perl script CGI thing work, how do you include it in your site. So all these little things that you can do by starting mini communities at your workplace, getting people to talk to each other and share your knowledge, that's probably the best best chance you can give yourself in terms of making sure all your developers are up to scratch.
Oui, Thierry Gagnon, donc étudiant. C'est un peu en réponse à Karl, en fait. Je suis passionné par les standards. J'ai un professeur qui essaye, mais qui n'a pas le temps de nous permettre d'apprendre correctement à créer un site web. Et le problème n'est pas au niveau du professeur, mais au niveau du temps donné au professeur pour donner l'enseignement. Parce que faire un site web en respectant la sémantique, etc., ça demande quand même plus de temps que simplement mettre quelqu'un sur Dreamweaver en lui expliquant vite fait comment ça marche. Et le gros problème dans l'éducation, en tout cas pour ma formation, c'est qu'on a réduit, par exemple, de 40 heures, 40 sessions, donc c'est pas vraiment 40 heures, c'est 40 cours pour apprendre le HTML et PHP à plus que 8 cours pour apprendre le HTML et PHP. Donc, une grosse réduction, et le professeur doit faire avec, c'est quasiment impossible pour le professeur d'arriver à faire quelque chose de correct. Le problème se trouve surtout là, donc c'est plutôt plus haut qu'il faut contacter au niveau des personnes qui mettent en place le programme.
C'est peut-être un problème plus large, finalement.
La réalité dans l'enseignement est la même que la réalité en entreprise. Ces gens-là n'ont pas de temps devant eux. Mais il faut avoir l'énergie de le faire quand même. Il faut trouver le moyen de le faire. Il faut couper ses heures de sommeil. Il faut faire une sortie de moins par semaine. Il faut faire quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Ça se pisse dans cette connaissance-là. Puis, le drame, il y a un drame derrière tout ça, parce que les gens qui ne veulent pas se prendre en main, c'est leur problème. Personnellement, j'ai aucune pitié pour eux. Mais le vrai drame, c'est les gens qui arrivent pour aller se faire une formation, qui paient super cher. Je ne sais pas ce que c'est ici. Chez nous, c'est 15 000 $ par année une formation. Pour nous, c'est terriblement cher. C'est peut-être rien comparativement à ce que vous payez, mais dans mon contexte, c'est énorme, pour une année. Puis, on n'apprend rien. On n'apprend rien, pas parce que les professeurs, les enseignants ne sont pas bons, c'est parce qu'ils ont leur bagage, qui traînent d'année en année en changeant une virgule à gauche, une virgule à droite, parce qu'ils n'ont pas le temps de faire autre chose, ils n'ont pas le temps de faire mieux. Puis, il faut qu'en tant qu'étudiant, vous fassiez l'effort de vous botter le derrière puis faire plus. Il faut aller lire des choses ailleurs, il faut livrer les projets de la mauvaise façon consciemment pour avoir la bonne note, puis il faut se virer, puis après ça, aller faire un autre truc de la bonne façon à côté, sachant que c'est ce que vous allez devoir faire.
Pardon, on va être obligé de conclure, donc il faut aller très vite et prendre...
Vous pourrez discuter ensemble peut-être... À 17h. Ouais. C'est pour que tout le monde ait le même temps de parole. Merci Denis.
Bravo Denis.
Merci à vous.